Chapitre 19. Fomushka et Fimushka, c'est-à-dire Foma, Thomas Lavrentievitch et Efimi Pavlovna Subotchev, qui appartenaient tous deux par leur naissance à la petite noblesse foncièrement russe, étaient à peu près les plus vieux habitants de la ville de S. Mariés très jeunes, ils étaient venus s'établir depuis un temps presque immémorial dans la maison de bois de leurs aïeux, située à l'extrémité de la ville. Jamais ils n'en étaient sortis pour voyager, et jamais ils n'avaient modifié en rien leurs habitudes ni leur genre de vie. Le temps semblait avoir cessé de marcher pour eux. Aucune nouveauté ne franchissait les limites de leur oasis. Ils n'étaient guère riches, mais plusieurs fois chaque année, leurs paysans venaient, comme au temps du servage, leur apporter de la volaille et des provisions. À l'époque fixée, le staroste de leur village venait présenter l'obroc et une couple de gélinottes, soi-disant tuées dans la forêt des seigneurs, forêt qui en réalité n'existait plus depuis longtemps. Ils invitaient le staroste à prendre le thé sur le seuil du salon, lui faisaient cadeau d'un bonnet en astrakhan, d'une paire de gants verts en peau de daim, et lui souhaitaient un bon voyage. Leur maison était pleine de dvoroviers, gens de service, selon l'ancienne coutume. Le vieux domestique Kalyopitch, vêtu d'une camisole à col droit, faite d'un drap extraordinairement épais et fermé par de petits boutons en cuivre, annonçait, comme jadis, d'une voix solennelle et traînante, que le dîner était servi, et s'endormait debout derrière le siège de sa maîtresse. Il avait le buffet sous sa garde. Il administrait les différents bocaux, cardamones et citrons. Quand on lui demandait s'il n'avait pas entendu parler de l'affranchissement des serfs, il répondait invariablement qu'il se dit bien des bêtises de par le monde, que c'est chez les Turcs qu'il y a la liberté, et que, quant à lui, grâce à Dieu, ça l'a épargné jusqu'à présent. Il y avait dans la maison une naine, Poufka, destinée à l'amusement des maîtres. La vieille bonne Vassilievna venait à l'heure du dîner, coiffée d'un grand mouchoir foncé, et d'une voix chevrotante, parlait de tout ce qu'il y avait de nouveau, de Napoléon Ier, de la guerre de 1812, de l'Antéchrist, des nègres blancs. Quelquefois, le menton appuyé sur la paume de la main, dans une attitude dolente, elle racontait les songes qu'elle avait eus, et elle les interprétait. Elle disait aussi ce qu'elle avait vu dans les cartes. La maison même des Subotchev différait de toutes les autres maisons de la ville. Elle était entièrement construite en chêne, avec des fenêtres exactement carrées, dont les doubles châssis étaient à demeure, été comme hiver. Elle était remplie de toutes sortes de chambrettes, de cabinets, de coins et de recoins, de perrons à balustrades, de petites soupentes soutenues par des colonnettes en bois tourné, de cabinets noirs et de corridors. Devant la maison, il y avait un enclos, derrière un jardin, et ce jardin était tout rempli de granges à paille, de cabanes pour les débarras, de hangars, de caves, de glacières, un vrai nid, quoi. Il n'y avait pas grand approvisionnement dans ces constructions. Quelques-unes même étaient tombées en ruine, mais c'était ancien et on n'y touchait pas. Les Subotchev n'avaient que deux chevaux, extrêmement vieux, tout velus, le dos encellé. L'un était si caduque qu'il en avait des plaques de poils blancs sur le corps et s'appelait l'Immobile. On les attelait, une fois par mois tout au plus, à un équipage étrange connu de toute la ville, fort semblable à un globe terrestre dont on aurait coupé le quart antérieur. Le dedans était garni d'une étoffe jaune d'importation étrangère et parsemé d'une multitude de petits pois en relief qui avaient l'air de verrues. Le dernier coupon de cette étoffe avait dû être tissé à Utrecht ou à Lyon à l'époque de l'impératrice Élisabeth. Le cocher était un bonhomme extraordinairement vieux aussi, tout saturé de l'odeur de graisse à cuire et de goudron. Sa barbe lui poussait dessous les yeux, et ses sourcils retombaient en petites cascades sur cette large barbe. Il était si lent dans ses mouvements qu'il mettait 5 bonnes minutes à prendre une prise, 2 minutes à passer son fouet dans sa ceinture, et plus de 2 heures à atteler l'Immobile. Avec cela, on l'appelait Perfishka. Quand les Subotchev se trouvaient en voiture, et que le chemin allait en montant le moins du monde, ils étaient pris de peur. C'était du reste exactement la même chose quand le chemin descendait. Ils s'accrochaient des 2 mains aux courroies et récitait à haute voix une sorte d'incantation. « aux chevaux, la force de Samuel. À nous, la légèreté du duvet. » Toute la file les regardait comme des originaux, peut-être presque comme des fous. Eux-mêmes sentaient bien qu'ils ne suivaient pas les usages d'à présent, mais ils s'en inquiétaient peu. Ils vivaient absolument comme on vivait à l'époque où ils étaient nés, où ils avaient grandi, où ils s'étaient mariés. Sur un seul point, ils s'écartaient des vieilles coutumes. Jamais, au grand jamais, ils n'avaient fait poursuivre ni puni personne. Quand un de leurs gens se trouvait être un ivrogne ou un voleur fieffé, ils commençaient par le supporter longuement, patiemment, comme on supporte le mauvais temps, avant de se résoudre à se débarrasser de lui, à le colloquer chez d'autres maîtres. « Chacun son tour, disait-il. C'est aux autres à le supporter un peu maintenant. » Mais cette calamité leur arrivait très rarement, si rarement que cela faisait époque dans leur existence. Ils disaient par exemple, « Il y a bien longtemps de cela. C'était à l'époque où nous avions ce mauvais sujet d'Aldoshka. » Ou encore, « À l'époque où l'on nous a volé le bonnet de fourrure à queue de renard qui avait appartenu à grand-père. » Chez le sous-botchef, on pouvait trouver encore des bonnets de cette forme-là. Il y avait un autre trait caractéristique des mœurs d'autrefois qui manquait aux deux époux. Ni Fomushka ni Fimushka n'étaient très religieux. Fomushka se piquait même d'être un voltairien, et les prêtres inspiraient une frayeur mortelle à Fimushka, qui prétendait qu'ils avaient le mauvais œil. « Un pope vient me voir, disait-elle. Il n'est pas resté longtemps, et pourtant, bon, voilà que la crème a tourné. » Ils allaient rarement à l'église et ne faisaient maigre qu'à la façon des catholiques qui se permettent les œufs, le beurre et le lait. On savait cela dans la ville, et naturellement leur réputation n'en était pas meilleure. Mais rien ne résistait à leur bonté, et malgré les railleries qu'on n'épargnait pas aux deux originaux, malgré le nom de bienheureux, d'innocents qu'on leur donnait, ils étaient respectés de tous. Oui, on les respectait, mais on ne leur faisait pas de visite, ce qui d'ailleurs ne les chagrinait guère. Ils ne s'ennuyaient jamais en tête à tête, c'est pourquoi ils vivaient toujours ensemble et ne désiraient pas d'autre société. Ni Fomushka ni Fimushka n'avaient jamais été malades, et si l'un d'eux se sentait légèrement indisposé, ils prenaient tous deux une infusion de tilleul ou se frottaient les reins avec de l'huile tiède, ou se versaient de la graisse fondue sur la plante des pieds, et l'indisposition était promptement guérie. L'emploi de leur journée ne variait jamais. Ils se levaient tard, ils prenaient du chocolat le matin dans de petites tasses semblables à des mortiers. Le thé, assuraient-ils, n'était pas encore à la mode de notre temps. Ils s'asseyaient en face l'un de l'autre, causaient, les sujets ne leur manquaient jamais, ou lisaient le passe-temps agréable, le miroir du monde, les Aonides, ou feuilletaient un vieil album relié en maroquin rouge à bordure d'or, qui avait appartenu jadis, comme en faisait foi une inscription manuscrite, à une certaine Madame Barbe de Cabiline. Quand et comment cet album était tombé entre leurs mains, c'est ce qu'eux-mêmes avaient oublié. Cet album contenait quelques poésies françaises, un assez grand nombre de poésies russes ou d'articles en prose, dont pourra donner une idée cette courte réflexion sur Cicéron. Dans quelle disposition d'esprit Cicéron accepta le grade de questeur, c'est ce qu'il explique lui-même ainsi qu'il suit. Ayant pris les dieux à témoin de la pureté de ses sentiments dans tous les grades dont il avait été honoré jusque-là, il se considéra comme lié par les liens les plus sacro-saints à remplir dignement les 10 grades. Et dans cette intention, non seulement il ne se laissa pas entraîner, lui, Cicéron, aux douceurs de l'infraction aux lois, mais il évita même avec un soin extrême les amusements qui sembleraient être les plus parfaitement indispensables. Au-dessous, on lisait, écrit en Sibérie, parmi les rigueurs de la faim et du froid. Il y avait aussi une pièce de vers très curieuse, intitulée Tircis, où l'on trouvait des strophes comme celle-ci. Le calme règne sur l'univers. La rosée avec agrément brille, elle caresse et rafraîchit la nature et lui donne une nouvelle vie. Seul Tircis, l'âme oppressée, souffre, se tourmente et s'afflige. Quand l'aimable Annette n'est pas auprès de lui, rien ne peut le guiller. Et un impromptu écrit en passant par un capitaine le 6e jour du mois de mai 1790. Poème. je ne t'oublierai jamais, ô toi agréable campagne. Et je garderai un éternel souvenir du temps qui a coulé si agréablement, ce temps que j'ai eu l'honneur de passer chez ta propriétaire pendant les 5 meilleurs jours de ma vie, dans le cercle le plus respectable, au milieu de beaucoup de dames et de demoiselles, et d'autres intéressants personnages. Poème. La dernière page de l'album contenait, outre des poésies, des recettes contre les maux d'estomac, les spasmes et même, hélas, contre les vers. Les sous-bottes-chefs dînaient à midi précis et ne mangeaient que des mets d'autrefois, beignets de lait caillé, soupe aigre aux concombres, viande hachée à la crème et à l'ail, bouillie de blé noir, pâté de poisson, poule au safran, flans au miel. Après le dîner, ils faisaient la sieste, 1 heure, pas davantage, puis se réveillaient pour se rasseoir en face l'un de l'autre et buvaient de l'eau d'érelle ou une sorte de limonade très gazeuse qui, la plupart du temps, s'en allait tout entière en mousse, au grand amusement des maîtres et au grand ennui de Calliopitch. Celui-ci devait essuyer partout et grommelait longuement contre la femme de charge et le cuisinier qui avaient inventé cette boisson. « À quoi est-elle bonne ? » disait-il. « À gâter les meubles. Voilà tout. » Puis les époux Subotchev faisaient encore une lecture ou s'amusaient à rire avec la naine Poufka ou chantaient ensemble de vieilles romances. Ils avaient des voix parfaitement semblables, hautes, faibles, un peu incertaines et même enrouées, surtout après la sieste, mais pas désagréables en somme. Ou enfin jouaient aux cartes, mais toujours à d'anciens jeux, tels que le Krebs, la mouche et même le Boston sans prendre. Puis le samovar faisait son apparition. Ils prenaient du thé le soir. C'était la seule concession qu'ils eussent faite à l'esprit du temps. Mais ils répétaient tous les jours que c'était une faiblesse et que l'emploi de cette herbe chinoise était cause d'un grand dépérissement dans le peuple. En général, ils se gardaient de blâmer le présent et de faire l'éloge du passé. Ils avaient toujours vécu de la même manière depuis leur naissance, mais ils accordaient fort bien que d'autres pussent vivre autrement, et même mieux, pourvu qu'on ne les forçât pas, eux, à changer. À 8 heures, Calliopitch servait le souper avec l'inévitable okrochka, et à 9, les grands lits de plumes embrassaient de leurs moelleuses étreintes les corps dodus de Fomouchka et de Fimouchka, et un paisible sommeil ne tardait pas à descendre sur leurs paupières. Tout bruit s'apaisait dans la vieille maisonnette. La lampe brûlait devant les images, un vague parfum de musc et de mélisse flottait dans l'air, le grillon chantait, et le bon couple risible et innocent dormait en paix. Voilà ce qu'étaient les fous, ou, comme disait Paclin, les perruches inséparables, qui avaient donné asile à sa sœur et chez qui il conduisit ses amis. La sœur de Paclin était une fille intelligente, assez jolie. Ses yeux surtout étaient magnifiques. Mais sa malheureuse difformité lui ôtait toute liberté d'allure, toute gaieté, et la rendait méfiante, presque méchante. Par-dessus le marché, elle avait un prénom très étrange. Elle s'appelait Snandouli. Son frère avait essayé de la rebaptiser Sophie, mais elle avait obstinément tenu à garder son bizarre prénom, disant que, quand on est bossu, on mérite de s'appeler Snandouli. Elle était bonne musicienne et jouait passablement du piano. « C'est à cause de mes longs doigts, disait-elle, non sans amertume, des doigts de bossu. » Les 4 visiteurs arrivèrent chez Fomouchka et Fimouchka au moment où ceux-ci, réveillés de leur sieste, étaient en train de boire de l'eau d'érelle. « Entrons dans le 18e siècle, s'écria Paclin en franchissant le seuil de la maisonnette. Et en effet, le 18e siècle leur apparut dès l'antichambre, sous la forme d'un petit paravent à fond bleu, sur lequel étaient collées des silhouettes noires de dames et de cavaliers coiffés à la mode du siècle dernier. Ces silhouettes, introduites par Lavater, étaient fort à la mode en Russie vers 1780. L'apparition inattendue d'un si grand nombre d'étrangers, 3 à la fois, produisit une vive émotion dans cette maisonnette si rarement visitée. On entendit un va-et-vient de pieds nus et chaussés. Quelques figures se montrèrent pour disparaître aussitôt. Une porte se ferma, quelqu'un gémit, quelqu'un pouffa de rire, une voix saccadée chuchota « Au diable !» Enfin, Calliopitch parut avec son éternel casaquin, et, après avoir ouvert la porte du salon, cria d'une voix retentissante « Ça, c'est le seigneur Sila Samsonitch avec d'autres seigneurs !» Les maîtres se troublèrent beaucoup moins que leurs serviteurs. L'irruption de quatre grands gaillards dans leur salon, d'ailleurs assez vaste, leur causait, il est vrai, quelque étonnement. Mais Paclin les rassura tout de suite, et avec ses bons mots habituels, leur présenta successivement les trois nouveaux venus comme des gens paisibles et point de la couronne. Fomushka et Fimushka avaient une particulière antipathie contre les gens de la couronne, c'est-à-dire les employés du gouvernement. Snandouli, appelée par son frère, fit son apparition. Elle était beaucoup plus agitée, beaucoup plus embarrassée que les vieux Soubotchev. Ceux-ci, tous deux ensemble et dans les mêmes termes, prièrent leurs hôtes de s'asseoir et leur demandèrent ce qu'ils préféraient. Thé, chocolat ou bien eau gazeuse avec des confitures. Mais, apprenant que leurs hôtes ne désiraient rien prendre, parce qu'ils venaient de déjeuner chez un marchand nommé Golushkin et devaient y dîner, ils n'insistèrent pas davantage, et, croisant tous deux de la même manière leurs petits bras courts sur leur petit ventre, ils se mirent en devoir de causer. La conversation d'abord, un peu languissante, s'anima bientôt. Paclin amusa extrêmement les deux vieillards avec l'anecdote connue de Gogol sur un général qui avait pénétré facilement dans une église pleine à étouffer parce que c'était un général, et sur un pâté qui se trouve être aussi fort que le général, en pénétrant non moins facilement dans un estomac aussi plein que l'église. Cette anecdote les fit rire aux larmes. Leur rire, comme tout le reste, était pareil, glapissant, entrecoupé, et se terminant par de la toux, de la rougeur sur le visage et une forte transpiration. Paclin avait fait la remarque que les gens de l'espèce des Soubotchev sont vivement et en quelque sorte spasmodiquement impressionnés par des citations de Gogol. Mais comme son intention était moins d'amuser les deux vieillards que de les montrer à ses compagnons, il changea ses batteries et s'arrangea si bien qu'au bout de peu d'instants, le couple prit courage et se lança tout à fait. Fomushka sortit de sa poche et montra à ses hôtes sa tabatière favorite en bois sculpté, sur laquelle on pouvait compter jadis 36 figures humaines dans diverses poses. Toutes ces figures étaient depuis longtemps effacées par le frottement, mais Fomushka les voyait encore, il les voyait, il pouvait les compter l'une après l'autre et les montrer du doigt. « Tenez, disait-il, en voilà un qui regarde par la fenêtre. Voyez-vous, il avance la tête. » Et l'endroit qu'il indiquait du bout de l'ongle retroussé de son petit index était aussi uni que le reste du couvercle. Puis il appela l'attention de ses visiteurs sur un tableau peint à l'huile qui était accroché au-dessus de sa tête et qui représentait un chasseur vu de profil sur un cheval Isabelle, de profil aussi, qui traversait au triple galop une plaine de neige. Ce chasseur portait un grand bonnet blanc en peau de mouton avec flamme bleue, une tunique tcherkesse en poil de chameau bordée de velours et serrée à la taille par une ceinture à plaques de métal doré. Un gant brodé de soie était passé à sa ceinture. Un poignard à manche d'argent niellé pendait à côté. Le chasseur, qui avait l'air jeune et dodu, tenait d'une main un corps gigantesque orné de glands rouges. De l'autre, les rênes et un fouet. Les quatre pieds du cheval étaient en l'air tous à la fois, et l'artiste avait soigneusement peint les quatre fers, sans oublier même les clous. Et remarquez, disait Fomushka, en montrant de ce même doigt potelé quatre taches demi-circulaires tracées dans le fond blanc, en arrière des pieds du cheval, remarquez les traces dans la neige. Il n'a rien oublié. Pourquoi ces traces n'étaient-elles qu'au nombre de quatre? Pourquoi n'y en avait-il pas d'autres plus loin, en arrière? C'est un point que Fomushka passait sous silence. « Ce chasseur, c'est moi, » ajouta-t-il après un moment d'hésitation, avec un sourire pudique et satisfait. « Comment ? » s'écria Nejdanov. « Vous avez été chasseur ?»« Oui, mais pas longtemps. Une fois en plein galop, je passais par-dessus la tête de mon cheval et je me blessais le courpeil. Là-dessus, Fimushka eut une terrible frayeur et me défendit de chasser. » Et ce fut fini. Qu'est-ce que vous vous étiez blessé ? Lui demanda Nejdanov. Le courpeil, répéta Fimushka en baissant la voix. Les visiteurs s'entre-regardèrent sans rien dire. Ils ignoraient absolument ce que signifiait ce mot. Markelov seul, il est vrai, savait qu'on appelle courpeil le plumet d'un bonnet cosaque ou tcherkesse. Mais comment Fomushka aurait-il pu se blesser ce plumet-là ? et personne n'eut le courage de lui demander un éclaircissement. « Ah, c'est comme ça que tu te vantes !» s'écria tout à coup Fimouchka. « Eh bien, moi aussi, je vais me faire valoir !» Elle ouvrit un tout petit bonheur du jour. On nommait ainsi un antique bureau sur pied d'or, dont le couvercle bombé, quand on le levait, glissait dans une rainure, et elle en tira une miniature à l'aquarelle, entourée d'un cadre ovale en bronze. Cette miniature représentait un petit enfant de 4 ans, entièrement nu, un carquois sur les épaules, un ruban bleu en sautoir sur la poitrine, qui, du bout de son doigt, essayait la pointe d'une flèche. L'enfant, extrêmement frisé, louchait un peu et souriait. Fimouchka montra l'aquarelle aux jeunes gens. « C'est moi, » dit-elle. « Vous ?»« Oui, moi, quand j'étais petite. Il y avait un peintre français, un excellent peintre, qui venait chez mes parents. C'est lui qui fit mon portrait pour le jour de la fête de mon défunt père. Et qu'il était gentil, ce français. Il vint nous voir plusieurs fois plus tard. Quand il entrait, il retirait son pied en arrière en glissant sur le parquet, puis il le secouait un peu en l'air et vous baisait la main. Et quand il sortait, il baisait ses propres doigts, ma parole. Et il saluait à droite, à gauche, en avant, en arrière. Il était bien gentil, ce français. Les visiteurs louèrent le travail du peintre. Paklin trouva même que c'était encore assez ressemblant. À ce propos, Fomouchka parla des Français d'aujourd'hui et dit que probablement ils étaient devenus extrêmement méchants. « Pourquoi cela, Foma Lavrentievitch ?» lui demanda-t-on. « Pourquoi ? Voyez plutôt quel nom ils ont. » « Par exemple ?»« Par exemple, Noyan Tsinloran, Nogent Saint-Laurent. C'est un vrai nom de bandit. » Fomouchka s'informa aussi du souverain actuel de la France. On lui dit que c'était Napoléon. Cela parut l'étonner et l'attrister. « Comment, un homme si vieux » commença-t-il. Mais il s'interrompit et regarda autour de lui d'un air inquiet. Il ne connaissait guère la langue française et n'avait lu Voltaire qu'en traduction. Il avait sous son oreiller, dans un coffret favori, une traduction manuscrite de Candide. Mais il lui échappait parfois des expressions telles que « fausse parquet » dans le sens de « ses suspects douteux ». Expression dont on s'était beaucoup moqué, jusqu'au jour où un Français très savant avait expliqué que c'était un vieux terme parlementaire employé dans son pays avant 1789. Profitant de ce que la conversation roulait sur la France et les Français, Fimouchka se décida à éclaircir un doute qui lui était resté dans l'esprit. Elle pensa d'abord à interroger Markelov, mais il la regardait d'un air tellement grave. Solomine l'effrayait moins. « Mais non, se dit-elle, il a l'air d'un homme simple, il ne doit pas comprendre le français. » Elle s'adressa à Nejdanov. « Je voudrais vous demander, commença-t-elle, excusez-moi, mais voilà mon cousin Silas Samsonitch qui se moque toujours de moi, pauvre vieille, à cause de mon ignorance. Demandez, je vous en prie. Voilà ce que c'est. Si quelqu'un veut employer le dialecte français pour demander ce qu'est une certaine chose, doit-il dire « qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce là ?» Oui. Et peut-il dire « qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce là ?» Sans doute. Et simplement « qu'est-ce là ?» Mais oui. Et tout ça, c'est la même chose. Oui. Fimouchka réfléchit un instant, puis fit un geste de résignation. « Eh bien, Silla, dit-elle enfin, j'avais tort et tu avais raison. Mais vraiment, ces Français sont bien drôles. » Paklin pria ensuite les deux vieillards de chanter une petite romance. Ils se mirent à rire tous deux et s'étonnèrent que cette idée lui fût venue. Mais ils ne se firent pas longtemps prier et posèrent seulement pour condition que Snandouli se mettrait au clavecin et accompagnerait. Elle savait déjà quoi. Il y avait dans un coin du salon un tout petit clavecin que les visiteurs n'avaient pas remarqué. Snandouli s'assit devant et prit quelques accords. Ce clavecin rendit des sons si pauvres, si aigres, si chétifs, si édentés, jamais de sa vie Nejdanov n'avait rien entendu de pareil. Mais les vieillards entonnèrent aussitôt leur romance. « Est-ce pour trouver la tristesse ?» commença Fomouchka, la tristesse dans l'amour, que nous avons reçu des dieux un cœur capable d'aimer. Fimouchka continua. Existe-t-il quelque part sur la terre un sentiment d'amour, sans douleur, sans souffrance? Fomouchka répondit. Nulle part, nulle part, nulle part. Et Fimouchka répéta. Nulle part, nulle part, nulle part. Puis tous deux ensemble, L'amour vit avec la souffrance, partout, partout, partout. Et Fomushka répéta en solo, partout, partout, partout. Bravo, s'écria Paklin, bravo pour le premier couplet, au second à présent. Très bien, répondit Fomushka, mais seulement, Snanduli Samsonovna, qu'est-ce que vous faites du tri? Après ma réplique, il faut un tri. Très bien, répondit Snanduli, je vous ferai un tri. Fomushka commença. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui est aimé sans torture, qui est jamais aimé sans pleurer, sans gémir? Et Fimushka. Si le cœur doit sombrer dans la tristesse comme une nacelle dans la mer, alors pourquoi nous fut-il donné? Pour souffrir, 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 s'écria Fomushka. Puis il s'arrêta pour laisser à Snanduli le temps de faire son tri. Après quoi Fimushka reprit. Pour souffrir, souffrir, souffrir. Et tous deux à l'unisson, « Dieu, reprenez-moi mon cœur, je n'en veux plus, plus, plus. » Et le couplet fut terminé par un nouveau tri. « Bravo, bravo !» s'écrièrent tous les assistants, sauf Markelov, en battant des mains. Pendant que les applaudissements se calmaient peu à peu, Nejdanov se demandait « Ces gens-là comprennent-ils qu'ils jouent le rôle de bouffon, ou peu s'en faut ?» Probablement non. Après tout, peut-être qu'ils le sentent et qu'ils se disent « Qu'importe, nous ne faisons de mal à personne et nous amusons nos visiteurs. » Et tout bien réfléchi, ils ont raison, 100 fois raison. Sous cette pensée, il se mit tout d'un coup à leur faire de très grands compliments, auxquels ils répondirent par de profondes révérences, en restant toutefois assis dans leur fauteuil. En ce moment-là, la porte de la pièce voisine, chambre à coucher ou chambre de servante, où, depuis quelques instants, on entendait chuchoter, s'ouvrit brusquement et livra passage à la naine Poufka, accompagnée de la vieille bonne Vassilievna. La naine se mit à glapir et à faire des grimaces, pendant que la bonne la retenait tantôt et tantôt l'excitait. Markelov, qui, depuis longtemps déjà, donnait des signes d'impatience, Solomine se contentait de sourire un peu plus que de coutume, Markelov se tourna tout à coup vers Fomushka. « Je n'aurais jamais imaginé, commença-t-il, que vous, avec votre esprit cultivé, vous, un admirateur de Voltaire, à ce qu'on m'assure, vous pourriez vous divertir d'une chose qui doit inspirer de la pitié, en un mot, d'une infirmité. » Ici, il se souvint que la sœur de Paklin était contrefaite, et il arrêta son discours. Fomushka rougit comme un enfant, arrangea son bonnet sur sa tête, balbutia « Quoi, ce n'est pas moi, c'est elle !» Mais ici, Poufka fit une charge à fond de train sur Markelov. « Qui est-ce qui t'a permis, s'écria-t-elle en grasseyant, de venir injurier nos maîtres? Tu es jaloux parce qu'on m'a accueilli, assisté et nourri, moi, pauvre malheureuse? Le bien d'autrui te fait loucher? D'où sors-tu, noireau, va-nu-pied, propre à rien, avec tes moustaches de hanneton ?» En disant cela, elle imitait avec ses gros doigts courts les moustaches de Markelov. Vassilievna riait à fendre jusqu'aux oreilles sa bouche dentée, et dans la pièce voisine, d'autres rires faisaient écho aux siens. « Je ne suis pas votre juge, vous comprenez, » reprit Markelov en s'adressant à Fomushka. « Recueillir les pauvres et les infirmes, c'est une bonne œuvre. Cependant, permettez-moi de vous dire mon opinion. Vivre dans l'abondance, comme un coq en pâte, ne dépouiller personne, mais ne pas remuer le bout du doigt pour venir en aide au prochain, ce n'est pas être bon. » Pour ma part, au moins, à parler franc, je ne donnerai pas ça de cette bonté-là. » Là-dessus, Poufka se mit à glapir d'une façon assourdissante. Elle n'avait pas saisi une seule parole du discours de Markelov, mais elle comprenait que ce noireau se permettait de maltraiter ses maîtres, l'impertinent. Vassilievna aussi murmurait je ne sais quoi d'un air courroucé. Quant à Fomushka, il avait croisé ses mains sur sa poitrine et, tournant la tête du côté de sa femme, « Fimushka, s'écria-t-il presque avec des sanglots, ma petite colombe, entends-tu ce que ce monsieur notre hôte vient de dire? Toi et moi, nous sommes des pécheurs, des méchants, des pharisiens, nous vivons comme des coqs en pâte, oi, oi, oi. Notre devoir est d'aller dans la rue, de quitter notre maison avec un balai à la main afin de gagner notre vie. Oh, oh. » En entendant de si tristes discours, Poufka glapit plus fort que jamais, et Fimushka, les yeux à demi fermés, les lèvres contractées, aspira l'air profondément, préparant un lamentable gémissement. Dieu sait comment l'affaire se serait terminée si Pakline ne s'en était mêlée. « Qu'est-ce que c'est ? Voyons, » dit-il en agitant les mains avec un gros rire. « N'avez-vous pas honte ? Monsieur Markelov voulait plaisanter. » Seulement, comme il a un visage extrêmement sérieux, sa plaisanterie a pris une tournure sévère et vous avez donné dedans. « Mais ce n'est pas ça du tout. Ma bonne petite Euphémie Pavlovna, nous allons être forcés de partir tout à l'heure. Savez-vous ce qu'il faut faire ? Pour nos adieux, dites-nous la bonne aventure. Vous la dites si bien. Allons, Snandouli, donne des cartes. » Fimouchka jeta un coup d'œil vers son mari. Et le voyant assis dans sa pose habituelle et tout à fait calmée, elle se calma aussi. « des cartes, » dit-elle. « Mais je ne sais plus, mon petit père, j'ai oublié. Il y a longtemps que je n'ai eu de cartes dans les mains. » Et déjà, elle prenait des mains de Snandouli un jeu de cartes très ancien, un jeu d'ombre. « À qui dois-je faire les cartes ?»« À tous !» s'écria Pakline. Et il se dit à lui-même, « Voilà, par exemple, une charmante petite mère. On la tourne où on veut, c'est un vrai plaisir. »« À tous, grand-maman, à tous » répéta-t-il à haute voix. « Dites-nous notre destinée, notre caractère, notre avenir, tout !» Fimouchka commença à étaler les cartes. Mais tout à coup, elle jeta le jeu sur la table. « À quoi bon des cartes ? » s'écria-t-elle. « Je n'en ai pas besoin pour connaître le caractère de chacun de vous. Et tel caractère, telle destinée. » Celui-là, elle montra Solomine, est un homme rafraîchissant et constant. Celui-ci, elle menaça Markelov du doigt, est un homme bouillant, un dangereux. Pouvka tira la langue à Markelov. « Toi, » elle regarda Pakline, « je n'ai pas besoin de te dire ce que tu es. Tu le sais très bien. Tu es un évaporé. » Celui-ci, elle montra du doigt Nejdanov et eut un mouvement d'hésitation. « Quoi donc ? » demanda-t-il. « Parlez, je vous en prie. Quel homme suis-je ? » ?»« Quel homme tu es ? » dit lentement Fimouchka. « Tu es un homme digne de pitié. Voilà. » Nejdanov tressaillit. « Digne de pitié ? Pourquoi donc ? » ?»« Tout simplement, tu me fais pitié. Voilà tout. »« Mais pourquoi ? » ?»« Parce que mes yeux me disent ça. Tu crois que je suis une bête ? » ?»« Je suis plus fine que toi, malgré tes cheveux rouges. Tu me fais pitié. » Voilà la bonne aventure. Tous se turent, s'entre-regardèrent et se turent encore. « Allons, adieu mes amis !» s'écria Pakline. « Voilà longtemps que nous sommes ici. Nous avons dû vous ennuyer. Ces messieurs doivent partir, et moi aussi je pars. Adieu, merci pour votre bon accueil. »« Adieu, adieu, revenez nous voir, ne nous oubliez pas !» dirent Fomouchka et Fimouchka d'une seule voix. Puis Fomouchka entonna la réponse liturgique, « Nombreuses, nombreuses, nombreuses années. »« Nombreuses, nombreuses !» répéta tout à coup en basse taille Kalliopitch, qui ouvrait la porte aux jeunes gens. Et tous les quatre se trouvèrent devant la petite maison ventrue, pendant qu'on entendait Pouvka glapir à travers la fenêtre « Imbécile ! Imbécile !» Pakline rit à gorge déployée, mais son rire n'eut pas d'écho, et même Markelov regarda ses compagnons l'un après l'autre, comme s'il eût attendu d'eux une parole d'indignation. Seul Solomine, comme à son ordinaire, souriait.